Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais revenir sur une chronique que j'avais déjà faite il y a quelques temps, qui était sur la designer, la créatrice de mobilier française Charlotte de Perriand. Cette émission avait été faite parallèlement à une exposition importante qui s'était tenue à la Fondation Vuitton et qui était intitulée Charlotte Perriand à l'origine du design d'aujourd'hui. Alors déjà le titre est assez fort. Alors je ne vous cache pas que mon émission elle était assez critique sur l'exposition, sur l'esprit de l'exposition, et j'essayais de replacer Charles de Perriand dans la réalité du XXe siècle et de son importance par rapport aux autres protagonistes du design et de l'architecture. Alors, la raison pour laquelle je reprends ce sujet, c'est que sur les réseaux sociaux, vous êtes tous déshabitués de ces réseaux sociaux et publiez régulièrement des mobiliers de cette époque, des années 30, et des mobiliers qui sont édités, et notamment une fameuse série de mobiliers qui s'appelle LC, c'est-à-dire Le Corbusier, avec notamment un fauteuil cube qui est fait en tube d'acier inoxydable, de chromé, et de couleur noire, avec également la fameuse chaise de Le Corbusier que tout le monde connaît, elle le sait, qui est une, et puis aussi la chaise longue, qui est aussi une icône de contemporaine. Donc, les publications sur Facebook sont toujours des objets de débat, puisque si on ne mentionne pas Charles de Perriand ou Pierre Jeanneret, qui était le cousin de Le Corbusier, on a des critiques et il y a effectivement des positionnements qui disent « mais ce n'est pas Le Corbusier, c'est uniquement Charles de Perriand ». Bah, effectivement, on peut dire dans le néo-féminisme actuel, il est de bon ton de dénigrer ce qui est dit dans les commentaires, c'est-à-dire que Le Corbusier, c'était un machiste, plus que ça, c'était non seulement c'était un macho, mais il était aussi un prédateur, puisqu'il a copié, il s'est servi du travail de Charles de Perriand, qui était suivant, on peut dire, une sorte de d'esprit néo-féministe contemporain, la seule créatrice, et donc le méchant Le Corbusier aurait volé l'esprit et la paternité de cette série de mobilier. Alors la manière dont les choses ont été présentées lors de cette exposition était assez ambigu, puisque on montrait d'une manière permanente et très importante ces meubles iconiques que l'on voit partout. On les voit dans les séries télévisées, on les voit dans les films. Donc ce sont des meubles, on pourrait dire, des icônes du XXe siècle qui ne sont pas vintage, qui sont contemporains. C'est-à-dire qu'on a l'impression, pour des gens qui ne connaissaient pas l'histoire du mobilier du XXe siècle, ce qui est tout à fait possible et honorable, peuvent tout à fait penser, légitimement, qu'il s'agit de créations récentes. Bah, c'est le propre, justement, des grandes œuvres, c'est de ne pas pouvoir être datées, d'avoir un côté universel et un côté, justement, sans âge. Alors, revenons à Charlotte Perriand et à ses polémiques. Donc, j'aimerais éclaircir un peu le sujet et revenir d'abord sur cette exposition. Ça m'a donné, pour faire cette émission, la possibilité aussi d'écouter ce que je n'avais pas fait, les conférences qui ont eu lieu au moment de cette exposition, d'ailleurs fort intéressantes, qui sont faites par des spécialistes, et notamment par la fille de Charles de Perriam, Pernette Perriam, et également son gendre qui est historien, fort intéressant, au demeurant Brassac, et qui, Jacques Brassac, et qui ont chacun, disons, publié des ouvrages de, sur Charles de Perriam. Et également, il y a eu Laura Dallaire qui est dans, aussi dans ses conférences, elle qui en fait une icône féministe et un élément du combat. Alors, d'abord, c'est quelque chose qui n'était pas... qui n'était pas du tout le combat de Charles de Perriam. Et au cours justement de ces conférences, on a la, l'explication de la fille qui n'est pas forcément en phase avec les gens qui se sont emparés de Charles de Perriam pour en faire une icône féministe dans un monde qui aurait été un monde de machos et où elle aurait été effectivement maltraitée. Et donc, il y aurait une opération très importante de réhabilitation. Alors l'opération de réhabilitation, je ne vous cache pas qu'elle est, elle, ce n'est pas rien du tout, puisque ce dont on parle, c'est quelqu'un qui a bouleversé la vie des femmes dans l'intérieur des maisons. Elle est quelqu'un qui mondialement aurait fait une rupture, on peut dire, civilisationnelle, et aussi, donc, sur un plan artistique, elle est à l'origine du design d'aujourd'hui, ce qui n'est pas rien. Alors, évidemment, tout ça est singulièrement exacerbé, c'est singulièrement, on peut dire, faux, parce que, en fait, il faut revenir à l'histoire, et on va revenir, et c'est ce que je vais vous raconter, c'est donc l'histoire de Charles de Perriam et de Le Corbusier, puisque Le Corbusier, comme vous le savez, est un des architectes les plus importants du XXe siècle, mais je dirais même beaucoup plus important que cela. Il est l'architecte important de notre nouvelle ère. Donc, un des plus importants. Alors, je fais une petite parenthèse par rapport à cela. On peut dire qu'il y a le premier architecte important au ce passage du XIXe siècle au XXe siècle. C'est un Américain qui s'appelle Frank Lloyd Wright, qui est connu pour sa fameuse maison de la Cascade et le musée Guggenheim à New York, et puis un très grand nombre de maisons qu'il a fait, je crois, qu'il a fait de 400 ou 500, enfin un nombre très, très important. Et donc on peut dire qu'il est le plus âgé dans le temps, et c'est lui qui fait ce passage entre le 19e et le 20e siècle. Ensuite, il y a Mies van der Rohe qui est allemand. Il est allemand et on connaît le fameux pavillon de Barcelone qui avait été reconstruit de l'exposition universelle de 1929 et qui a également un grand nombre. Après, il émigre aux États-Unis pendant la période nazie et il a une carrière très importante aux États-Unis où il construit principalement en Amérique du Nord. Et on peut dire qu'il influence vraiment tout le mouvement moderne, c'est-à-dire que la plupart des bâtiments métalliques, en gratte-ciel, les murs rideaux en verre, ben, seront directement influencés, créés, on peut dire, dans l'esprit de Mies van der Rohe, d'ailleurs avec des qualités moindres, parce que ses œuvres sont totalement intemporelles et sont une sorte, ce sont des icônes, on peut dire, parfaites, et là encore aussi sans âge. Et alors, donc, ça fait trois architectes, et je rajouterai, alors là, c'est une période plus récente, c'est un quatrième architecte qui est américain, d'origine lituanienne, donc il arrive aux États-Unis à l'âge de 12 ans, et il s'agit de Louis Kahn. Donc là, c'est une période déjà plus récente, puisqu'il s'agit principalement de l'après-guerre. Et on peut dire qu'on boucle avec ces quatre architectes à peu près tout l'éventail de l'architecture au niveau, on peut dire, formel, de ce qui est la création, la rupture du mouvement moderne. Voilà, donc je reviens à Le Corbusier. Le Corbusier est franco-suisse, il est naturalisé français, il est à La Chaux-de-Fonds et il est un architecte majeur important dans le mouvement moderne. Et donc, pour revenir à Charles de Perriand, il y a donc la rencontre de Charles de Perriand, ou plutôt Charles de Perriand, demande à Le Corbusier. Alors, Le Corbusier, ça se passe en 1928. Le Corbusier a 41 ans. Il est déjà un architecte connu pour ses positions à la fois manifestes. Il a écrit, il fait des publications, des articles. Et il a aussi réalisé des bâtiments qui sont importants. Donc, il va réaliser la fameuse Villa Savoie, mais il a déjà réalisé la maison Laroche, la maison Stein. La maison Laroche, c'est des maisons qui existent toujours et qui est le siège de la fondation Le Corbusier. Donc, il marque à cette époque, bon, il n'est pas le seul à faire une architecture puriste, blanche, on peut dire, dans l'abstraction et totalement différente des formes, on peut dire, décoratives qui existaient à cette époque-là en Europe. Donc, il y a une rupture. Alors, il n'est pas le seul à la faire, mais on peut dire que déjà, ses œuvres sont très connues, donc il est à ce moment-là, à 41 ans déjà, il a aussi, il est en train de faire les bâtiments de la cité Frugès à Pessac, qui existent toujours. Donc voilà, donc c'est la rencontre d'une jeune femme qui vient travailler pour lui. Il faut dire qu'elle a 24 ans, Le Corbusier a 41 ans, et Le Corbusier est associé à son cousin, qui est un jeune architecte qui, à cette époque, a 31 ans. Donc, il s'agit d'un petit cabinet d'architecture, même ils ont déjà il a déjà une notoriété importante, et cette jeune femme qui est Charles de Perriand a déjà montré son savoir-faire lors d'une exposition. Elle n'est pas architecte, elle sort de l'école des arts décoratifs, bon, qui est une école pas très importante à cette époque-là. C'est quand même, on pourrait dire, assez ringard par rapport à cela, mais elle se distingue parce que elle est assez curieuse et elle connaît déjà le mouvement Bauhaus, c'est-à-dire une école, elle, par contre, qui est significative du mouvement moderne, qui est en Allemagne. Donc il y a cette effervescence de cette époque. Et donc, on a Le Corbusier qui est le maître, et donc cette jeune femme qui va travailler pour lui pour justement meubler les villas qu'il fait pour des riches propriétaires, des riches mécènes, des gens qui sont des collectionneurs d'art moderne. Vous voyez, donc, Paris est un peu le centre de toute une fébrilité au niveau artistique, Picasso, Léger, enfin, Matisse, enfin, c'est un moment très important de l'architecture moderne. Voilà, donc on va marquer une pause musicale et puis je vais reprendre cette histoire tout de suite après. Donc revenons sur Charlotte Perriand. Charlotte Perriand, donc à 24 ans, d'après les photos que l'on a, donc c'est quelqu'un qui va vivre très longtemps. Elle va décéder à 96 ans, et donc bien après Le Corbusier. Mais Le Corbusier est déjà plus âgé, il meurt à 77 ans. Et donc, il y a un temps très important entre la mort de Le Corbusier et la mort de Charlotte Perriand. Vous allez voir l'importance que tout cela a. Parce qu'il y a deux choses. Il y a d'une part l'histoire, donc l'histoire qui doit être le plus possible, la plus vraie et non plus fantasmée. C'est-à-dire que le néo-féminisme actuel ne peut pas changer l'histoire, même si cette histoire serait plus belle. C'est-à-dire, effectivement, d'avoir cette jeune femme qui crée ce mobilier et qui est dans une époque, effectivement, où les hommes dominent dans cette profession, et d'avoir une histoire un peu sensible et romantique, et puis on serait des justiciers d'essayer de refaire ça. Alors ça, donc d'un côté il y a l'histoire, et puis il y a aussi des histoires de gros sous, et on va en parler parce que tout cela cache quand même des intérêts importants. Alors, Le Corbusier, effectivement, il est malin, il s'adjoint quelqu'un qui est tourné beaucoup plus sur le mobilier, c'est-à-dire les éléments de détail, qui a déjà réalisé des choses, donc qui est en phase avec le système de production de mobilier. C'est de l'artisanat, donc il y a du cuir, il y a du métal et des tubes. Ce n'est pas eux qui les mettent, qui les inventent. Ça a été créé quelques années avant, ou à peu près dans cette même période, par un architecte qui s'appelle Marcel Breuer, et qui vivra aussi aux États-Unis comme Miss Vandero, et qui vient de ce mouvement qui est le Bauhaus, et il crée les premiers sièges tubulaires avec des associations donc de cuir et de métal. Et l'idée, suivant la légende, lui vient en regardant des vélos, des bicyclettes, les tubes, et il l'applique au mobilier. Alors, c'est quelque chose qui va continuer jusqu'à maintenant, puisqu'en fait, ce sont une trouvaille qui va continuer sur tout le siècle. Et alors, donc, dans cette création, donc Le Corbusier, c'est lui qui est à la fois par la notoriété, à la fois aussi par l'âge, parce que l'âge, c'est assez important. Vous savez que En architecture, il n'y a pas de Mozart. L'architecture est un métier, et le design aussi, qui est un métier long à apprendre, parce qu'il y a, il y a un processus qui est très long. Donc il n'y a pas de, quand je dis de Mozart, mais il n'y a pas non plus, de comme on peut trouver en peinture ou en dessin, des gens très jeunes. On voit que les œuvres commence à émerger et à avoir une visibilité, une originalité chez les architectes, on peut dire c'est la quarantaine. Donc Le Corbusier 41 ans, il commence à faire des œuvres qui sont, qui vont, et puis qui vont être très personnelles, et surtout ça va venir dans les années qui vont suivre. 24 ans, il s'agit d'une jeune femme qui est certainement compétente, brillante, elle est très jolie, séduisante, c'est une femme libre, cette époque qui est une époque de grande, comme je disais, effervescence culturelle tout à l'heure, de ces débuts des années 30. Et donc, il est, et puis il y a aussi ce jeune garçon qui a 31 ans, qui va avoir, disons, le rôle de chef d'agence, de suivre l'économie de l'agence, et Le Corbusier étant, lui, la personnalité à la fois créatrice, et puis, on peut dire, c'est la figure de proue qui va faire des conférences, qui écrit, qui va voyager, qui rencontre les autres architectes, et il y a ce trio. Donc, la série a été signée par Le Corbusier parce qu'elle s'appelle LC de ses initiales. Bon, comme tout le monde le sait, ce n'était pas son vrai nom. Il s'appelait Édouard-Charles Jeanneret, c'était un pseudonyme qu'il avait trouvé. Mais elle va être LC. Et on va voir, on peut dire que sur un plan qui est important, puisqu'il s'agit de la propriété artistique de l'œuvre, et je vais faire une petite parenthèse sur cela. Il faut, je vous rappelle, les lois de la propriété artistique qui donnent la propriété artistique et l'exploitation des œuvres rémunérées par les copyrights et les droits d'auteur. Alors, c'est valable pour la musique, c'est valable pour les écrivains, c'est valable pour c'est toutes les œuvres de création de l'esprit, et pour l'architecture, c'est valable. Alors pour l'architecture, c'est un débat dont je parlerai une autre fois, c'est un peu compliqué, mais en tout cas pour le mobilier, qui sont des objets avec une production industrielle, il y a dessus, juste 70 ans après la mort de l'artiste, il y a les droits et le versement des droits de copyright et les royalties qui sont versés aux ayants droit. Alors, dans le cas présent, Le Corbusier n'a pas eu d'enfant, et les ayants droit, c'est la fondation Le Corbusier. C'est-à-dire, c'est une fondation qui reçoit les droits d'auteur de ces mobiliers qui sont édités par l'éditeur italien Cassina. Et ces droits d'auteur sont une part très importante, puisqu'en fait, c'est, comme je vous disais, ces sièges sont, et cette table, ces fauteuils sont édités dans le monde entier. Ils sont très chers, ils coûtent 5000 euros le fauteuil, donc c'est le prix d'une petite bagnole, c'est quelque chose de très cher, et donc les sommes sont certainement considérables. Je n'ai pas les chiffres, mais il doit y avoir des sommes considérables. Donc, Le Corbusier, ça va s'achever bientôt, les 70 ans après la mort de Le Corbusier. Et donc, il est intéressant que de raccrocher à Jeanneret et à Perriand, qui est, elle, est mort beaucoup plus récemment, le fait de faire redémarrer pour 70 ans. Alors c'est là où cette histoire, c'est pas uniquement une histoire, comme je vous disais, d'attribution néo-féministe. Non, on est dans une histoire de gros sous, parce que une fois que ça tombe dans le domaine public, c'est le cas bah, des films, c'est le cas des livres. Une fois que c'est tombé dans le domaine public, tout le monde peut l'exploiter, tout le monde peut l'éditer, et c'est la fin pour Cassina d'avoir l'exclusivité, c'est la fin pour la fondation Le Corbusier d'avoir les royalties qui sont versées, dont tout le monde a intérêt effectivement à faire prolonger. C'est l'histoire du Boléro de Ravel aussi qui a été une histoire incroyable pour faire prolonger le Boléro de Ravel au-delà de ces fameux 70 ans. Alors, il est évident que l'enjeu est important, et c'est curieux, c'est que la Fondation Le Corbusier, j'ai découvert ça en faisant ma petite enquête, qui est assez simple, puisqu'avec Internet, on trouve tout, comme vous le savez. Et donc, on a les mobiliers, les quelques mobiliers donc, qui sont marqués en série LC, c'est-à-dire celui qui est le plus diffusé, c'est le fauteuil et qui est LC2, la fameuse chaise longue LC4 qui valent, comme je vous le disais, ils valent 5000 euros à peu près chacun. Également, il y a une chaise aussi, enfin un fauteuil en cuir LC1 et puis une table sur une en verre sur une structure métallique, et Le Corbusier s'en était inspiré en ayant vu des éléments de construction d'avions qui s'appelle LC6. Alors ces quatre sont mentionnés: Le Corbusier, Le Corbusier, Charlotte Perriand et Jeanneret. Alors c'est tout à fait, on peut dire, rajouté par la suite, puisqu'en fait, ce n'était, Le Corbusier avait pris lui seul la paternité de cela. Dont la fondation Le Corbusier, qui sont ses ayants droit, ils ont rajouté les autres parce qu'effectivement, ils en bénéficieraient. Il faut dire que Charles de Perriand, par contre, autant Le Corbusier n'a pas eu d'enfant, et c'est la fondation qui est donc les ayants droit et qui touche l'argent du mobilier, mais Charles de Perriand a une fille, un mari qui est historien, et une petite fille également, et tout ce petit monde, effectivement, ils ont intérêt à se partager le pactole, et donc toute cette... tous ces livres et toute cette, on peut dire, histoire réécrite, c'est pour donner à Charlotte Perriand un rôle qu'elle n'a pas eu. À 24 ans, c'est pas elle qui a initié, même s'il a participé. Mais tous les architectes ont des aides. C'est un métier qui est lourd, compliqué. Il faut avoir des gens qui travaillent pour vous. Et aussi, pour faire du mobilier, il y a des prototypes à faire, donc il y a plusieurs personnes. Donc il n'y a rien d'extraordinaire à faire travailler d'autres personnes qui ont effectivement leur rapport et leur rôle. Mais il y a au sein d'une œuvre d'art, je sais par exemple des équipes de cinéma, si un film est de Berman, Berman c'est pas Berman plus Tartampion et machin chouette, c'est Berman. Alors effectivement, après il y a le déroulé en fin de film où on marque la script girl, celui qui a apporté les tasses de café, celui qui a fait le maquillage, les habits, etc., celui qui a prêté les bagnoles, enfin bon, il y a ces listes que personne, cette liste qui se déroule à la fin de film que personne ne regarde, et le film est attribué à quelqu'un, même si effectivement, bien sûr, il n'a pas fabriqué tout seul. Voilà, donc en architecture et en design, il s'agit du même processus, et effectivement, on ne peut pas rajouter tous les gens qui ont participé à cela, et non seulement rajouter, mais en plus de ça, ces gens qui deviennent des ayants droit, et ce qui est quelque chose qui n'est pas normal. Voilà, donc il faut dire aussi que la création, d'ailleurs, c'est la loi qui est ainsi faite, c'est que la création, c'est une personne, c'est pas une société. La création intellectuelle est liée à une personne. Donc, les cas de groupements sont sont assez rares dans l'histoire de l'art. Il y a des couples, par exemple les cristaux là, qui ont emballé l'Arc de Triomphe post-mortem, ils étaient un couple, il y a le couple Lalanne, il y a Sonia et Charles Delaunay. Enfin, bon, il y a quelques couples dans l'architecture et le design, mais bon, c'est assez rare. Et donc, dans notre histoire de Charles de Perriand et de Le Corbusier, je crois que il faut bien préciser qu'il y a un seul auteur. Le seul auteur, c'est celui qui prend les décisions, et la forme finale. Je vais en parler parce que c'est un sujet qui demande deux émissions. Dans le cas présent, on en aura fait trois, mais je vais vous donner la suite la semaine prochaine de cette histoire, qui est une histoire fort intéressante, puisque elle recoupe à la fois l'histoire de l'art, l'histoire de l'architecture, l'histoire du design du XXe siècle, et puis aussi ces histoires qui sont très importante parce qu'il s'agit d'intérêts financiers et aussi des lois de propriété artistique qu'il est important de rappeler. Donc, je vais terminer aujourd'hui et je vous renvoie à la semaine prochaine pour la suite de Charles de Perriand et de Le Corbusier. Je vous souhaite une bonne semaine.